9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bonjour mes amis, Maître Serran vous salue en ce mois d'août finissant. Et oui, il va falloir commencer sérieusement, si ce n'est déjà fait, à penser au retour. Les gars, finis les maillots de bain, les barbecues, les balades à la plage ou à la montagne. Retour à la triste réalité, au train-train quotidien. Et oui, c'est reparti pour une année à supporter ton patron, tes voisins, ta femme. Car curieusement, mon cher Philippe, il résulte d'une étude réalisée par moi-même et cautionnée par Maître Serran que ton épouse est plus supportable en vacances qu'en dehors des vacances. Comment cela s'explique-t-il ? Eh bien, il est scientifiquement établi que durant les vacances, le cerveau de l'homme se déconnecte en partie. En fait, ta femme et tes enfants sont toujours aussi pénibles, mais t'es programmé pour ne pas réagir. Ils continuent les uns et les autres à brailler, enfin surtout la femme, et ton cerveau est tellement bien fait que tout ce qu'ils peuvent dire te glisse dessus. Ah, rien que pour ça, j'aime les vacances. D'ailleurs, tiens, conseil gratuit de la part de Maître Serran, et compte tenu de mes honoraires, tu vas voir que ce conseil est un véritable cadeau à tous ceux qui ont des projets de mariage. Je vous invite à aller de toute urgence à passer une IRM ou un scanner de votre cerveau afin de comprendre pourquoi l'homme est prêt à mettre fin volontairement à sa liberté. C'est vrai quoi, quand tu réfléchis 10 secondes. Pourquoi, alors que tu es libre, que tu fais ce que tu veux à l'heure que tu veux, que tu n'as de compte à rendre à personne, pourquoi tu décides un jour de vivre en couple ? Quand je vois ces mariages en été, j'ai de la peine pour les types. Ils sont là tout souriants, ils dansent et pourtant, ce n'est que le lendemain qu'ils vont se rendre compte du piège. Le pacte est scellé avec, d'aucuns diraient le diable, d'autres diraient avec la femme ou l'homme. Et ensuite, pour bien te plomber la vie, tu décides un jour de faire des enfants qui, soit dit en passant, te diront un jour qu'ils ne t'ont rien demandé, surtout pas de te sacrifier pour eux. Allez, tu vas finir par prendre un crédit pour acheter ta maison. Tu trouveras que c'est le projet de ta vie. Tu seras pendant au minimum 20 ans propriétaire de ton crédit. Si par malheur, tu ne paies pas une mensualité, tu peux te retrouver devant un tribunal et voir ton bien vendu aux enchères. Et pendant ce temps, ce qui devait arriver, arriva, mon cher Philippe. La femme que tu as épousée, qui fut jadis svelte, a pris quelques dizaines de milliers de kilos. Elle est devenue aigrie, méchante, insupportable. Bref, ton mariage finira au mieux par un divorce, au mieux par un divorce. Mais dans ta grande chance, tu sauras que tu pourras faire appel à Maître Serran. Oh, réveille-toi, auditeur, ce n'était qu'un vilain cauchemar, car au moment où je te parle, tu es invité à appeler le 01 53 48 3000 pour poser tes questions. Émission sous le contrôle de celui qui vous fait oublier que vous êtes marié, monsieur Philippe Robichon, Beurre FM, c'est tout droit, c'est parti.
Maître Serran, c'est pas encore la rentrée. J'ai l'impression qu'on rentre de plus en plus tôt, Maître Serran.
Le truc, c'est ça.
Laissez-nous, on a encore, une petite dizaine de jours pour en profiter.
Mais c'est pas
la rentrée, là.
Quand, fin juin, toutes les grandes surfaces, il y a toutes les affaires d'école, psychologiquement, la rentrée est déjà là. C'est ça qui est un peu triste.
Vous êtes ringard. Tout le monde achète sur Internet maintenant.
Ah bon?
Ouais, tout le monde fait ses listes sur Internet.
Je suis vraiment un vieux.
Non, mais c'est vrai. Alors ça, pour une fois, j'ai presque envie de dire que c'est. Alors là, c'est plutôt une bonne innovation. Alors là.
C'est vrai.
Non, c'est pas la rentrée.
Je préviens.
On prévient.
Prépare psychologiquement.
Moi, j'ai envie que le mois de d'août s'étire, qu'on le fasse encore durer un petit peu.
Ouais, jusqu'au 20 septembre.
Mais il y a des gens qui partent en vacances en septembre.
Oui, c'est ceux qui ne sont pas partis en juin ou en août. Voilà, c'est vrai, et ils ont raison.
Et ils ont bien raison parce que ça leur coûte moins cher en plus.
Je suis d'accord avec vous, c'est moins cher, il y a moins de monde. On est d'accord.
Bien, on va rester un petit peu en vacances avec vous, Maître Serran. Ce matin, on va parler des réglementations qui encadrent les locations meublées. Alors, de style Airbnb. Est-ce que le Airbnb, c'est la même chose que les bonnes vieilles locations qu'on fait saisonnières ?
Alors, c'est exactement la même chose avec une puissance de frappe, évidemment, des intéressés comme Airbnb. Hein. Alors, il n'y a pas que, mais on entend souvent parler d'eux. Donc, sur le principe, il n'y a pas de difficulté.
C'est la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, votre villa ravissante et magnifique sur la Côte d'Azur, c'est là que vous la louez.
Alors, c'est la même chose dans le sens où, à partir du moment où ils se sont rendus compte, en tout cas les pouvoirs publics, ils se sont rendus compte que c'est...
Ah là, vous ne répondez pas sur votre villa sur la Côte d'Azur, tiens, là. Vous convoquez les pouvoirs publics, moi je voulais savoir. Où vous avez loué votre villa sur la Côte d'Azur ?
C'est
sur Airbnb
Non, pas par relation. Compte tenu du tarif, je peux vous assurer que ce n'est pas par relation.
Pourquoi vous avez fait un tarif de groupe ?
Oui, un tarif de groupe, parce qu'on était en famille. Et pour ne rien vous cacher, j'étais très précisément à Lançon de Provence, hein, donc à quelques kilomètres de Marseille, et c'était très très sympathique,
confortable.
Ouais, franchement, ouais, y a rien à dire. Encore que on a eu un problème de clim, et puis les gens là-bas bossent.
Ah, parce que vous avez la clim.
Ouais, faut pas déconner non plus.
Ah ouais,
compte tenu du tarif de location, oui, c'était à minima. Ouais, quand même.
Donc, alors,
je vous disais sur Airbnb. En fait, la difficulté qui s'est passée, c'est quoi? C'est que quand vous louez en province et autres, le problème via Airbnb ne se pose pas. En fait, mon angle en tout cas d'attaque était de préciser que vous avez évidemment maintenant dans les grandes villes comme Paris, comme Marseille, comme Lyon, une réglementation qui s'est imposée, puisque les pouvoirs publics, c'est très surprenant, mais se sont rendus compte que ça dépeuplait, entre guillemets, les centres-villes, et on n'avait que des touristes donc qui venaient pour une certaine période, et ensuite ils repartaient, et ce qui faisait qu'il y avait une véritable, d'après eux en tout cas, pénurie de biens disponibles. Je rappelle quand même qu'on est en matière de propriété privée. C'est quand même assez surprenant que des pouvoirs publics viennent imposer leur vue alors que vous êtes propriétaire du bien. Mais en dehors de cet aspect-là, purement entre guillemets Airbnb, il y a un autre élément qui est à prendre en considération. Il faut pas oublier que, alors ça ne concerne pas les villas, mais ça concerne plutôt les appartements. Il faut pas oublier qu'à partir du moment où vous êtes en copropriété, vous avez, et il faut toujours le vérifier, parfois l'obligation d'en informer le syndic de copropriété.
C'est-à-dire que si vous voulez louer et mettre votre appartement sur une plateforme type Airbnb, vous pouvez pas le faire comme ça, sans en informer la copropriété.
C'est exactement ça, c'est toute la difficulté. Alors pourquoi? Bah parce que vous avez des copropriétaires qui se sont plaints des va-et-vient en disant que bon, il y avait des horaires qui étaient parfois tardifs, ou vous avez des particuliers, des familles qui venaient ou qui repartaient. Donc il y a eu beaucoup de plaintes, à tel point que vous avez aujourd'hui des règlements de copropriété qui interdisent ce type de location. Encore une fois, c'est une véritable atteinte au droit de propriété. Alors, il faut savoir que quand vous avez des litiges, et on a beaucoup de litiges, donc, et vous vous retrouvez devant des tribunaux, le magistrat va prendre en considération un élément qui n'est pas anodin, à savoir quel est le type d'habitation qui existait dans cet immeuble. À savoir que si vous avez parmi les copropriétaires ou les locataires ou les occupants un médecin ou un avocat, par définition, il y avait déjà des va-et-vient. Donc quand vous êtes dans cette optique, quand il y avait déjà une profession libérale qui était exercée, vous pouvez y aller tranquille, même si il y a une difficulté dans le règlement de copropriété où on vous interdit ou on vous interdirait la location, c'est attaquable et vous pouvez obtenir gain de cause. Par contre, vous avez des immeubles dites occupation complètement bourgeoise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité libérale, et à partir de ce moment-là, il est certain que le syndic de copropriété a la possibilité de vous interdire ce type de location. On peut comprendre hein, dans l'absolu, mais moi ce qui me navre, c'est que vous avez les pouvoirs publics dans un premier temps, mais vous avez les institutions privées telles que les syndics de copropriété qui, de par ces dispositions, de par ces mesures, portent une véritable atteinte, encore une fois, à votre droit de propriété. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi, par exemple dans le cadre d'Airbnb, pourquoi je ne peux pas louer, moi, mon bien plus de 4 mois dans l'année. Ça peut sembler quand même assez curieux en la matière, mais c'est dans ce qu'on appelle le cadre de la loi Allure. Donc vous avez des dispositions très particulières.
Alors la loi Allure qui est censée aussi protéger les personnes qui veulent louer dans les centres-villes aussi.
Ouais, mais la difficulté, c'est que c'est censé aussi protéger les personnes qui veulent louer dans les centres-villes. Mais moi je le redis, moi je pars du principe, encore une fois, alors c'est peut-être un raisonnement un peu vieillot aujourd'hui, mais je pars du principe qu'à partir du moment où vous avez une personne qui s'est encore une fois sacrifiée, qui paie des charges de copropriété, qui paie des impôts sur son bien, et qui n'est pas en mesure de le louer comme il le souhaite pour éventuellement rentabiliser son bien, je considère que c'est quand même une atteinte au droit de propriété. Mais faites attention, parce qu'en plus, et en particulier sur Paris, avec notre excellente maire de Paris, vous avez une multiplication...
Comment s'appelle-t-elle déjà ?
Grandet. une multiplication.
Ah non, on a dit qu'on n'attaquait pas le physique.
Non, c'est vrai. Alors, les grands trous de nez. En fait, son nez, il n'est pas si grand que ça, non, mais les narines sont extraordinairement dilatées.
Anne Hidalgo.
Alors, Anne Hidalgo.
Voilà. Vous verrez quand elle sera réélue, les doigts dans son grand nez.
Ah bon,
vous verrez.
Ouais. Non, mais parce que je pensais que j'allais faire la rime. Réélue, les doigts dans,
dans
son.
Dans
mais
son nez.
Je ne sais pas si elle sera réélue, en tout cas. Bon, moi, je suis
les
plus...
Les doigts, vous allez voir, elle va repasser, elle va vous le faire à l'envers.
Bon, moi, je serai plus Villani, plutôt. Mais bon. Ça n'engage que moi.
C'est parce qu'il a plus, il a un peu la même chevelure que vous, donc c'est pour
ouais,
ça.
Ouais, c'est vrai, c'est peut-être ça en fait qui nous rapproche. Ouais, ouais.
C'est le catogan.
Je sais même plus ce que j'allais vous dire.
C'est-à-dire dire que, justement, dans les villes comme Paris.
Donc, j'allais vous dire qu'il faut faire attention parce que, bien évidemment, vous avez beaucoup de contrôles et comme ce pays a une longue tradition de délation, les contrôles, ils sont pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on risque à partir du moment où vous n'avez pas fait une déclaration? Vous allez, évidemment, avoir une amende qui va être imposé. Et puis, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire éventuellement vérifier si vous avez dépassé un certain seuil de location, voir si vous avez déclaré ces locations ou pas. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez aussi vous retrouver avec des problèmes fiscaux. Donc, voilà, c'est-à-dire que c'est pas anodin. Encore une fois, on part du principe que vous êtes propriétaire de votre bien et puis vous avez plein de textes qui vont vous imposer donc un certain comportement. Voilà, moi, je trouve ça assez navrant. Et puis, l'argument qui consiste à dire toutes les personnes qui devaient s'installer de manière pérenne sur Paris partent. Oui, bah ils partent de toute manière simplement en raison des tarifs prohibitifs. Donc on a de moins en moins de personnes à salaire moyen sur Paris.
Ça fait monter le prix des loyers dans certains quartiers, M. Serran.
Mais ça fait monter le prix des loyers dans certains quartiers. Mais encore une fois, moi je peux l'entendre et le comprendre. Le type, il est propriétaire, qu'on le veuille ou non, qui veulent rentabiliser son bien. Est-ce qu'en soi c'est critique? Et à partir du moment où vous avez des gens qui viennent occuper votre bien pour une semaine ou pour 15 jours, peu importe, et qui sont prêts à payer le prix, enfin voilà, moi je trouve ça quand même assez extraordinaire qu'on vienne fouiller dans votre caleçon. Donc moi, ça me dérange que les pouvoirs, c'est l'expression fouiller dans le caleçon, je crois qu'il vous fait sourire.
Heureusement que j'étais assis, parce que j'ai failli tomber de mon tabouret, Maître Serran.
Mais voilà, je trouve ça quand même assez étrange que les pouvoirs publics et encore une fois que les institutions privées, puisque je vous dis les syndics de copropriété, viennent mettre leur nez là-dedans et en gros vous imposez la manière dont vous devez gérer un bien pour lequel vous vous êtes, encore une fois, très souvent endetté sur des années.
Alors, vous posez vos questions à Maître Serran dans un instant au standard de beurre FM 01 53 48 3000. Si vous n'osez pas l'affronter directement en direct, vous pouvez l'appeler sur son téléphone cellulaire.
Absolument, au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Dès qu'il sera rechargé d'ailleurs, Maître Serran.
Oui, c'est
parce
vrai.
Vous êtes un peu faible de la batterie, là.
J'ai 20%. Attention à l'expression faible de la batterie.
Vous êtes faible de la batterie, ouais. Maître Serran.
20%.
Bien, Maître Serran, avec vous jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre service, reviens dans un instant. Ford. Pendant les Ford Days et jusqu'au 31 mars seulement, découvrez la Ford Fiesta avec régulateur de vitesse et écran tactile.
Pas mal! Rajoute le truc pour rester dans la voie, s'il te plaît.
L'aide au maintien dans la voie. Ok, Teddy.
Et parle-nous du prix aussi.
Pendant les Ford Days, la Ford Fiesta tout équipée est à partir de 109€ par mois.
Et bep.
Avec aide au maintien dans la voie.
Excellent!
C'est Teddy qui l'a dit.
Ouverture dimanche 17 selon autorisation. LLD à particulier 48 mois, 40 000 km pour une Ford Fiesta 5 portes. Cool & Connect 70 chevaux, premier loyer de 1990€. Offre jusqu'au 31 mars sous conditions de reprise. Si accord Bréman Elise, voir Ford.fr.
L'instant d'art.
Téléphone, c'est pour toi.
C'est qui?
Non, le téléphone, c'est pour toi. J'ai fait une super affaire chez Darty.
C'est les Darty Days. Jusqu'au 31 mars, le pack smartphone Samsung J6 32Go noir est à 149€ au lieu de 229, soit 80€ d'économie.
Dont 50€ de remise immédiate et 30€ remboursés par Samsung. Voir conditions en magasin ou sur darty.com. Darty Days, les jours Darty.
Pendant les tickets d'or, les magasins U en font deux fois plus les vendredis et les samedis pour leurs clients. Et ça, j'adore. Julie, hôtesse de caisse, nous en dit plus.
Eh oui, deux fois plus de chances de gagner jusqu'à 250€ carte U. Les vendredis et samedis, vous recevez deux fois plus de tickets d'or à gratter. Donc deux fois plus de chances de gagner. Alors tentez votre chance, il y a 5 millions d'euros carte U mis en jeu.
5 millions ? J'arrive.
U. Commerçons autrement.
Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 24 mars, réservé aux clients carte U. Liste des magasins et règlement du jeu sur magasinu.com ou à l'accueil de votre magasin participant.
Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ?
Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. Du 14 au 18 mars, les Renault Days, c'est le bon moment pour bénéficier d'offres exceptionnelles, comme Clio Trend à partir de 9 990€. Dépêchez-vous, c'est le moment d'y aller.
Renault Days, jour Renault. Pour Clio Trend de TCE 75 sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 12 ans et d'éligibilité à l'écoprime Renault de 1 500 € et gouvernementale de 1 000 € déduite. Offre valable jusqu'au 31 mars, voire Renault.fr.
Joyeux anniversaire!
Mais, chérie, c'est pas mon anniversaire?
Non, mais c'est l'anniversaire Barjo chez Netto. Il y a des promos complètement dingues. Aujourd'hui, les 2 rôtis de filet de porc sans os origine France sont à 3,79 € le kilo.
Netto, le discounter qui fait la différence.
Parquette de 1,44 kg environ, modalité et magasin participant sur netto.fr.
Chérie, j'ai trouvé Fiat Panda à 5 990 €.
Oh non, c'est chaud!
Justement, elle a la clim.
Allez, c'est l'occasion à pas rater.
Ah non, elle est neuve à 5 990 €.
De quoi tu parles?
De Fiat Panda Ligue 1 Conforama à 5 990 €.
Mais faut pas la rater!
Ah, là c'est le but que t'as raté.
Fiat est partenaire du Foot Pro en France, alors vous aussi, soyez Fiat de foot avec Panda Ligue 1 Conforama à partir de 5 990 €. Et en ce moment, Fiat garantit toute sa gamme 10 ans. Offre jusqu'au 25 mars sous condition de reprise. Prime à la conversion de 2 000 € déduite, détails sur Fiat.fr.
Fiat.
Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Chez Carrefour et Carrefour Market, il y a des produits frais à prix exceptionnel.
Mais oui, des produits frais mais pas du tout de saison, c'est ça?
Alors là, justement non. C'est sur les oranges et sans traitement chimique après récolte.
Ah bah alors là je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Hein.
Jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, les oranges feuilles sont à seulement 99 centimes le kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Variété New Old, catégorie 2, origine Portugal, label indication géographique protégée. Plus d'informations sur carrefour.fr.
Le nouveau catalogue plein air de Jouet Club est arrivé. Et jusqu'au 20 mars, à partir de 150 € d'achat Smoby, Jouet Club vous offre un toboggan Smoby XS.
Les enfants, prêts pour un grand bol de plein air en famille?
Offre valable sur les jouets Smoby du catalogue plein air Jouet Club 2019, voire conditions magasin France uniquement.
Intersport. L'histoire d'Alex, c'est l'histoire d'une rencontre avec des chaussures Under Armour chez Intersport. Si confortables qu'elles ont changé ses entraînements. Il est plus vif, Alex. Plus fort, plus libre dans ses pieds.
Ne lâche rien, Alex. Tous en pleine forme avec Intersport. Du 25 février au 10 mars, les chaussures Under Armour Ripple Home sont à seulement 34,99 € au lieu de 69,99 €, soit moins 50%.
Intersport, le sport, la plus belle des rencontres.
Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr.
9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors vous l'avez compris, Maître Serran ne répond qu'à vous mesdames, hein, aujourd'hui au standard de Beurre FM 01 53 48 3000.
Un peu belle quand même, on va pas répondre à toutes les
à
femmes
tout,
non plus.
Tout le monde, Maître Serran. Aujourd'hui,
les LED, les...
Tout le monde,
non,
toutes les femmes sont belles.
Aujourd'hui, elles sont toutes belles. Voilà, on se retrouve.
Bien, Amel est avec nous et vous étiez en train de parler de son fils avec elle, oui. Amel.
Oui.
Alors, donc...
Ma dernière question était est-ce que voilà, est-ce que mon fils restera fiché malgré
ça? Non, alors voilà. Si ça va dépendre évidemment beaucoup de la suite qui va être donnée à cette affaire. C'est-à-dire que si demain, madame, soit le procureur de la République considère qu'il n'y a pas lieu à poursuite parce que les déclarations de la partie adverse, c'est simplement n'importe quoi. Ou alors, si le procureur de la République décide quand même de poursuivre votre fils et qu'un magistrat considère que le dossier ne tient pas la route, donc à partir de ce moment-là, il pourra éventuellement demander à ce que son nom soit effacé du fichier, puisqu'il n'y a aucune raison, évidemment, que ses empreintes et autres se baladent à travers tel ou tel fichier. Mais ça, ce sera en toute fin de procédure.
Très bien. Donc,
voilà.
Écoutez, je vous remercie.
Merci à vous.
Je voulais juste si je peux me permettre de petites secondes, au-delà du bénéfice de cette émission, je voulais juste vous remercier le duo Philippe et Maître Serran pour ce que vous faites, parce que à chaque émission, vous arrivez à m'accrocher des grands sourires aux lèvres et ça, je vous en remercie énormément. Voilà, je vous souhaite une très très bonne
On fait un gros bisou, Amel.
Merci à vous, on vous embrasse.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
C'est un plaisir de voir que vous êtes encore drôle, Maître Serran.
Oui, hein, mais ouais. ça a l'air de vous surprendre.
Oui, ça me surprend. Ouais,
mais moi, ça me surprend que vous soyez surpris que je sois encore drôle.
Je sais, mais voilà.
Bon.
Amel vous le dit. Merci, Amel. Et Faïza est avec nous. Faïza, bonjour et bienvenue. Alors, Faïza.
Allô.
Bonjour, Faïza, bienvenue.
Ah, bonjour. Bonjour, Maître Serran. Bonjour, Christophe.
Bonjour, Faïza.
En fait, je suis agréablement surprise parce que je partais au travail et c'est la première fois que j'arrive à vous avoir.
Ben voilà, c'est voilà, le jour des femmes et c'est votre
ça,
jour.
C'est une femme qui travaille, c'est n'importe quoi ce pays. Oh non, là, faut pas dire ça aujourd'hui, Nael Chétan. Non, je dis des bêtises, je sais pas ce qui m'arrive.
Ouais, non, mais j'adore vos émissions. Effectivement, je vous accorde le fait que par moment vous êtes un peu désinhibé, mais on vous l'accorde. Vous êtes tellement.
Oh, ça lui va tellement bien, ouais, désinhibé.
C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, ouais. Alors merci, Faïsa.
pour revenir à ma question, en fait, j'avais pas au départ de questions, puisque j'ai tenté comme ça, mais au fur et à mesure que je coupais l'émission, une question m'est venue. En fait, comment on peut retrouver les traces d'une lésion d'honneur qui a été remise à un grand-père, et est-ce qu'on peut en profiter pour faire une naturalisation ou autre chose?
Alors, comment est-ce qu'on peut retrouver les traces? Alors, évidemment, il faut savoir que c'est pas l'administration française qui va faire forcément l'effort d'essayer de vous remettre les documents X ou Y.
Oui.
Donc, c'est vrai que
oui.
Si vous me dites que vous partez de zéro, ça me semble extrêmement, extrêmement difficile. Donc, dans un premier temps, il n'y a rien qui interdit d'envoyer peut-être un petit courrier au ministère de l'Intérieur, donc avec des coordonnées très précises, des documents, des dates, et toutes les informations afin que les recherches puissent être faites, parce que, bien évidemment, toutes les personnes qui ont pu, à un moment ou à un autre, obtenir cette distinction, on va les retrouver assez facilement, mais je dois reconnaître que par expérience, l'administration, à partir du moment où vous n'avez pas un élément qui dit que moi, État français, j'ai donné à un moment ou à un autre la Légion d'honneur, si vous n'avez pas ce type de document, l'administration fait pas beaucoup d'efforts quand même. Bon,
d'accord.
Après, il n'est pas interdit non plus de tomber sur une personne qui fait son boulot correctement et qui vous communique l'information, mais franchement, je vous dis, l'administration fait pas beaucoup d'efforts. Bon, alors après, il y a toujours moyen de persister et d'insister, mais pour que vous compreniez, il suffit pas simplement d'envoyer un petit courrier et de se dire bah tiens, je vais recevoir toutes les infos. Mais commencez par ça, donc
oui.
par envoyer un petit courrier avec les coordonnées, avec des éventuellement des dates, des périodes, pour qu'ils puissent
oui,
aussi entre guillemets essayer de cibler un peu la situation et le dossier. Et à partir de là. Je le redis, ce serait pas sérieux de vous dire que l'administration donne zéro information, mais ça arrive que l'administration se dise bon, il y a aucune raison pour la simple et bonne raison que qu'ensuite, vous voyez, vous me disiez, est-ce qu'on peut bénéficier de la nationalité française? Il y a pas d'automatisme.
Oui.
Pour être clair, il n'y a pas d'automatisme, et parfois le raisonnement de l'administration étant de dire bah pourquoi est-ce qu'on se réveille aujourd'hui pour demander si telle ou telle personne a obtenu telle ou telle distinction, souvent on se dit bah peut-être que les enfants, l'intéressé ou les petits enfants, peu importe, vont peut-être invoquer ça pour c'est souvent vrai, mais je crois que ceci explique cela. On fait pas beaucoup d'efforts en se disant comme ça, l'intéressé ou les enfants de l'intéressé vont pas ensuite passer à l'étape supérieure et dire bah puisque j'ai obtenu telle ou telle distinction, est-ce que je peux obtenir une nationalité française? Donc il n'y a pas d'automatisme.
Hein. D'accord.
Mais vous avez quand même un début de piste, non?
Oui, enfin j'ai le document en l'occurrence, mais en fait je savais pas à qui m'adresser avec. En fait c'est pas pour moi parce que moi je suis binationale, c'est pour ma fratrio.
D'accord.
En Algérie donc.
D'accord. Bon, mais je le redis, hein, c'est pas, ce serait pas
oui,
sérieux de dire
ça,
c'est automatique,
c'est
voilà. Donc après, alors c'est un élément qui permet de, mais évidemment il n'y a pas d'automatisme en la matière.
D'accord. Eh ben c'est, merci beaucoup.
Merci
à vous. Faïsa, et bonne fête.
C'est le jour de. Oui, merci et hommage à toutes les femmes qui se battent pour une vie digne.
C'est vrai.
Merci. Voilà. Faïsa, bisous. Ouais.
On vous embrasse.
Bonjour, allez,
au revoir. Alors, Sonia est avec nous. C'est un prénom que vous appréciez.
Bonjour, Maître Cyrane.
Particulièrement, Maître Cyrane.
Bonjour, Sonia.
Bonjour,
vous
Sonia.
Vous appelez vraiment Sonia?
Oui.
Eh ben, c'est bien. Voilà. Ouais.
Alors, en fait, je vous appelle parce que j'ai une question. J'ai mon frère qui a acheté un véhicule.
Oui.
Et gagé.
Gagé.
Un véhicule gagé.
Ouais.
Oui.
Ouais. Bah, en règle. Alors, mais parce qu'en règle générale. On arrive à savoir si le véhicule est gagé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il l'a acheté quand même?
Il n'a pas du tout fait attention. C'est la première fois qu'il a acheté une voiture. Il n'a écouté personne. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il n'a pas demandé les documents nécessaires. Il ne savait pas qu'il fallait un certificat d'engagement.
Bah ouais.
Et en fait, la voiture est gagée parce que le propriétaire a eu des amendes, des radars, etc. Et je voulais savoir si bah, y a un retour en arrière possible parce que le propriétaire, il nous fait un petit peu tourner au rond.
Oui, bon, enfin, j'allais dire, on peut le comprendre. Il s'est débarrassé de son véhicule, il n'a pas forcément envie de, voilà. Alors, dans l'absolu, la logique voudrait que ce certificat de non-gage puisse être levé, mais ça voudrait dire que le propriétaire initial n'ait plus de dette à l'égard des uns ou des autres. Quand vous discutez avec le proprio, il vous dit quoi? Que bon, qu'il reconnaît les faits et qu'il est prêt à faire le nécessaire ou à reprendre le véhicule?
Ça fait 2 semaines qu'il me fait tourner en rond. Oui, j'ai essayé d'appeler le service des impôts et j'ai bien compris qu'en réalité, il voulait juste gagner du temps et qu'il ne comptait pas les payer. Ça fait 2 semaines.
Alors, la difficulté, madame, c'est quoi? C'est que, alors, techniquement, il pourrait éventuellement, votre frère, engager peut-être une... Mais, vous voyez, ça veut dire engager une procédure. Donc, d'abord, c'est une procédure qui va être longue pour demander l'annulation de la vente. Donc, ce serait techniquement possible. Mais vous comprenez bien que c'est une procédure qui va se jouer sur plusieurs mois. Pourquoi? Bah, parce que la loi, elle est ce qu'elle est, mais c'est vrai que la loi ne peut pas défendre ceux qui sont, pardon, et ne le prenez pas mal, ceux qui sont un peu tête en l'air. Ouais, c'est aussi ça la difficulté. On peut pas faire de grosses erreurs et ensuite dire bon ben est-ce que la loi va me protéger? Il y a aussi des limites à la protection de la loi, c'est-à-dire qu'il faut au minimum raisonner un petit peu, enfin sauf voilà, si vous me dites qu'il est placé sous tutelle curatelle, vous voyez, il y a entre guillemets une situation qui pourrait l'expliquer, mais à partir du moment où, on va dire, il a toute sa tête, et à partir du moment où la bêtise, c'est lui qui l'a faite parce qu'il n'a pas pris le temps de vérifier si le véhicule était gagé ou pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de procédure rapide, en tout cas, ou automatique, pour dire, ah bah oui, attends, le véhicule est gagé, donc le propriétaire initial va le reprendre. Donc, soit d'accord, vous trouvez un terrain d'entente avec avec ce proprio, mais je crois comprendre qui cherche à gagner du temps, soit, voilà, soit éventuellement vous engagez une procédure contre l'intéressé pour demander l'annulation de la vente. Alors, sachez quand même que, j'imagine que votre frère a assuré le véhicule, donc quand on a une assurance, on doit pouvoir bénéficier d'une clause défense recours, c'est-à-dire que
elle est pas assurée, hein, parce qu'il peut pas faire de carte.
Ah mais oui, mais en plus c'est vrai. Non, mais autant pour moi. Ah ouais, bon alors là c'est une situation qui commence à sentir mauvais, mais vous avez raison, autant pour moi. Bah donc alors d'abord, il peut engager une procédure, mais ce sera entre guillemets pour sa poche. Tout en sachant que ce qu'on appelle en droit l'article 700, c'est-à-dire que quand vous engagez une procédure, vous pouvez demander au juge de condamner la partie adverse à vous rembourser vos frais de procédure, vos frais d'avocat. C'est pas certain que le juge lui accorde, parce que c'est quand même, entre guillemets, il a joué un peu, la personne un peu tête en l'air. Donc, je le redis, la loi protège pas forcément ceux qui ne prennent pas des mesures basiques. Et là, en la matière, vérifier si un véhicule est gagé, c'est vraiment le basique du basique. Donc, s'il n'y a pas de terrain d'entente, c'est une procédure, et c'est une procédure qui risque de durer longtemps.
Et il faut qu'il s'adresse à qui directement, faut qu'il
dépose
une plainte avant.
Alors, il peut éventuellement déposer une plainte, mais j'allais dire en soi non. C'est-à-dire que ce qui serait le plus logique, c'est bon d'abord un courrier recommandé à l'intéressé pour dire écoutez, voilà la situation. Et puis bon, je dis n'importe quoi, mais accorder.
L'intéressé doit le savoir quand même.
Oui, non, mais bien sûr, évidemment, voilà. Non, mais c'est évidemment de la mauvaise foi. Et puis indiquer que par exemple, si sous 15 jours il n'y a pas de retour, ou si soit il met pas fin à cette situation de gage, soit s'il reprend pas le véhicule, et ben qu'une procédure sera engagée. Il faudra qu'il prenne un avocat. C'est une procédure donc qui sera engagée devant le tribunal de grande instance. Et l'avocat est obligatoire pour ce type de procédure. Mais un petit courrier recommandé pour rappeler ce que disait Philippe. On se doute bien que celui qui lui a vendu se doutait que le véhicule était gagé, mais pour rappeler la mauvaise foi du vendeur, et encore une fois, et lui dire qu'on est prêt à discuter, mais à défaut de retour, bah dans ce cas-là, c'est la juridiction qui va statuer.
D'accord. Bon.
Voilà. On n'entend plus. C'est pardon.
Le contrôle technique, il est également obligatoire parce qu'il ne va pas fournir non plus.
Ah ouais, mais vous savez, après, au bout d'un moment, il faut aussi connecter toutes ces neurones quand on achète un véhicule. Bien sûr. Si quelqu'un vient et vous dit, donnez-moi tel miracle. Prix, voilà. Oui, et on verrait. C'est pour miracle, ça, je vous dis, mais ça, c'est une réalité. Vous savez, alors, je ne dis pas que le magistrat va taper sur la tête de votre frère, mais je veux dire, au bout d'un moment, on peut aussi demander un minimum d'attention à celui qui fait ce type de démarche. Là, il s'est peut-être précipité.
Oui. Merci, Sonia. À bientôt. Donc, d'autres appels dans un instant, mesdames. Si vous voulez parler à Maître Serran, vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000, c'est votre fête aujourd'hui.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Maître Mourad Serran, alors ça y est, Sonia a réussi à énerver Maître Serran.
Oui, enfin ce qui... Pas Sonia personnellement, on l'entend, en tout cas pas cette Sonia-là, on se comprend. Mmh. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant qu'aujourd'hui encore, on puisse acheter un véhicule gagé et un véhicule qui n'a pas de contrôle technique. C'est le minimum minimorum, donc avant d'acheter ce type de véhicule, encore une fois, il n'y a pas besoin de faire de grandes ou de longues études. Et je le dis tout simplement parce qu'à partir du moment où vous avez l'impression que vous êtes fait, entre guillemets, arnaquer. Alors oui, vous pouvez toujours engager des procédures, mais c'est un an et demi de procédure. Ça va vous coûter des sous puisque l'avocat est obligatoire. Donc, un petit peu de bon sens. Et je le redis, malheureusement, et je vais être un peu cru, la loi ne protège pas les idiots. Donc, faites attention à ça.
Alors, Lila est avec nous. Lila nous appelle de Lyon, Maître Serran. Lila, bienvenue.
Oui, bonjour, monsieur. Je me permets de vous appeler pour un renseignement, s'il vous plaît, qui ne concerne pas directement. Ce serait pour la maman d'une amie, donc je vous expose un peu de problème. Enfin, c'est pas un problème, mais en fait, voilà. Elle est née en France en 1956. Elle possède une carte de séjour. Elle a fait à de nombreuses reprises une demande de réintégration qui lui a été refusée. La question est, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour pouvoir bénéficier de cette nationalité française qu'elle a parce qu'elle est née sur le territoire français? Et qu'en plus de ça, tout ce qui est acte de naissance, elle les récupère en mairie dans la région lyonnaise. Donc, je voulais savoir si on pouvait avoir un...
Alors, quand on lui refuse la réintégration, l'argument qui est invoqué, c'est quoi?
Alors, la première demande qu'elle avait faite, c'était la naturalisation qui lui a été refusée. Ensuite, elle a fait une deuxième demande de réintégration.
Mais le motif, c'est ça qui est important, c'est-à-dire d'accord, ouais. Alors c'est assez rébarbatif en la matière, mais c'est vrai que ça tient la route hein, comme refus.
D'accord.
Et ensuite.
Elle a fait deux demandes. Elle a fait deux demandes qui lui ont été refusées. Et depuis, elle a abandonné parce que si vous voulez, elle pensait que voilà, elle pouvait pas en bénéficier. Mais il me semble que du fait qu'elle est née sur le territoire français, elle bénéficie normalement de la nationalité française.
Non, il n'y a pas d'automatisme. Hein, c'est une légende urbaine, d'accord. Ça. Il n'y a pas d'automatisme. D'accord. Alors, il n'y a rien qui interdirait à madame de solliciter ce qui a manifestement été fait, une réintégration. Après, vous me dites que ça a été refusé. C'est-à-dire, ce qui serait intéressant, c'est pour ensuite rectifier le tir, savoir si ça vaut le coup de contester ou pas, de connaître les motifs du refus. La motivation est importante. Parce que ça peut être refusé pour mille et une raisons, donc on ne pourra pas évidemment évoquer et exposer aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, il faudrait vraiment connaître les raisons pour lesquelles l'administration lui a refusé ça. Et à partir de là, je pourrais, en tout cas un avocat, pourrait éventuellement vous dire ça vaut le coup de contester ou pas. Mais c'est impératif d'avoir la décision sous les yeux. Hein.
D'accord, parce que je sais que c'est par rapport à ses revenus, en fait. Il estimait qu'elle n'avait pas assez de revenus.
Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en matière de réintégration, l'histoire des revenus n'entre pas en ligne de compte. La réintégration, d'accord, c'est dire que je considère que vous êtes français depuis toujours. Voilà, la réintégration, c'est ça. La naturalisation, c'est vous êtes étranger aujourd'hui, demain vous souhaitez devenir français. Bien il y a sûr. Des conditions, et notamment, effectivement, des conditions de revenus. Donc d'accord. Là, quand vous me dites... Pour sa demande de naturalisation, si ça lui a été refusé en raison de ses revenus, oui, c'est tout à fait. Alors après, ça peut se discuter autre, mais c'est un élément qui est pris en considération et souvent les refus de naturalisation sont motivés sur des histoires de revenus.
D'accord. D'accord.
Donc, vous voyez, ça reste quand même deux fondements juridiques différents.
Bien sûr, bien sûr. Et pour la réintégration, parce qu'en fait, elle s'était trompée, si vous voulez, parce que quand elle a fait sa première demande, elle a demandé une naturalisation, mais elle ne savait pas qu'elle pouvait demander la réintégration. Donc, elle a fait cette première demande qui lui a été refusée. En se renseignant un peu plus, elle a su qu'elle pouvait demander une réintégration. Donc, elle a fait cette deuxième demande et qui a été refusée.
Ouais. Bah, c'est vrai, parce que d'abord, sur les formulaires, tout en haut du formulaire, vous avez naturalisation, réintégration, et puis il faut c'est mettre ça. Une petite croix. Donc, très souvent, alors je dis pas que les gens mettent la croix n'importe où, mais parfois, ça y ressemble, en toute bonne foi d'ailleurs. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Si vous mettez naturalisation ou si vous mettez une croix sur réintégration, ce sera pas la même manière d'appréhender votre dossier. Et quand bien même l'administration se dira bah tiens, la personne en vérité aurait pu bénéficier d'une réintégration, ils vont pas vous la donner juste pour vous faire plaisir si vous avez souhaité une naturalisation. Voilà, d'accord. Je le redis, le fondement juridique n'est pas le même, mais ce qui serait intéressant, c'est peut-être de savoir, bon, la naturalisation on a compris, mais de savoir en tout cas de connaître les raisons pour lesquelles cette réintégration lui a été refusée.
Le motif c'était qu'elle avait pas des salaires suffisants. C'est le motif qu'ils ont donné lors de sa dernière demande de réintégration.
On en revient au point de départ.
Ouais. Bon alors là, par contre, ça, encore une fois, parce que je le redis, ce critère financier est un critère qui s'applique pour la naturalisation. La réintégration, c'est considéré que la personne est française depuis toujours. Donc si pour la réintégration on lui dit il y a un problème de salaire, ça vaut le coup de contester. Sous réserve évidemment qu'elle soit encore dans les délais pour contester la décision.
Voilà ce qu'on peut vous dire, Lila. Rapidement, Maître Serran, Amina est avec nous. Amina, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Du coup, je vous appelle en fait pour un renseignement. Ce serait en fait pour une prise d'acte à l'initiative de l'employeur, à l'initiative du salarié au tort de l'employeur. Et ce jour, en fait, on n'a pas de nouvelles de l'employeur. Il ne donne pas de nouvelles, on l'a convoqué au prud'homme, il ne vient pas.
Alors, la courtoisie voudrait que l'employeur, quand il est convoqué, se présente, mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire qu'on n'ira pas le chercher menotte au point pour lui dire « Vous êtes convoqué, venez ». Le conseil de prud'homme va en tirer des conséquences, c'est-à-dire qu'il va se baser exclusivement sur, éventuellement si vous avez eu des échanges de courrier avec l'employeur, mais exclusivement sur les arguments que le salarié va invoquer.
Oui, alors, en fait, je vous explique, il s'est fait arrêter par la police parce qu'il est conducteur poids lourd. Du coup, il est parti en garde à vue parce que le camion qu'il conduisait, il était immobilisé, interdit de circuler. Depuis
ouais. Alors là, on parle de qui ? Du salarié ?
Oui, du salarié.
D'accord.
Voilà. Il est interdit de circuler depuis 2017.
Ah ouais.
Il a eu une dizaine d'amendes. Sauf que l'employeur, aujourd'hui, il se cache en disant qu'il l'a mise à pied oralement. Et du coup, qui veut pas venir au prud'homme, que pour lui, il l'a licencié.
Non, mais d'accord. Alors d'abord, mise à pied oralement, ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire des bêtises, mais devant une juridiction, il faut des preuves. Donc qu'un patron dise, mais moi, je l'ai mis à pied comme ça oralement, à lui de le prouver, à lui de l'établir. Et je le redis, après, il a le droit de pas se présenter. Vous savez, c'est comme dans toutes les juridictions. Vous êtes convoqué pour une procédure de divorce, monsieur ou madame décide de pas venir, on a le droit de pas se présenter. C'est la juridiction qui en tirera des conséquences. Alors, on a le droit, mais c'est pas conseillé, évidemment. Moi, je le vois même dans mes dossiers. Il est certain que quand la partie adverse n'est pas présente, ben c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ben on n'hésite pas à mettre des coups de gourdin supplémentaires sur la tête de l'absent, puisque l'absent ne sera pas là pour nous contredire, ne sera pas là pour dire qu'on exagère ou qu'on dit même parfois peut-être des bêtises. Donc stratégiquement, quand vous êtes convoqué devant une juridiction, il faut vous présenter, à minima.
En fait,
mais ils pourront pas le forcer.
Là, il se cache en disant qu'il a été mis à pied le 2 janvier dans un courrier. Après, dans un autre courrier, ils disent que non, c'est le 4. Après, dans un autre courrier, ils disent que non, c'est le 3.
Bon, vous voyez, déjà, en soi, il y a beaucoup d'incohérences. Bon, je le redis, c'est-à-dire que le fait que l'employeur ne soit pas là, il n'y a pas de difficulté. La procédure va continuer sans lui. Et a priori, il y a une condamnation qui va tomber. Alors, ça n'interdirait pas à l'employeur plus tard éventuellement de contester s'il le souhaite. Mais ne vous formalisez pas en disant « bah tiens, l'employeur n'est pas venu ». Et bah tant pis, et surtout tant pis pour lui.
D'accord, ok. Et du coup, là, il a été reconvoqué, mais dans un mois. Et du coup, j'ai une question. Si il ne se présente pas, ça se passe comment ?
Même chose. Je le redis, c'est le salarié qui va être entendu par le magistrat, et le magistrat rendra une décision par rapport à ça. C'est tout. Par rapport aux documents, par rapport aux déclarations d'une seule des parties. Voilà. La juridiction le convoque, le type, il veut pas venir, et ben, il en assumera les conséquences.
Voilà, Amina. Dans un instant, la dernière ligne droite de cette émission. Est-ce qu'on attend encore d'accueillir une dame? Peut-être tout à l'heure, donc 01 53 48 3000.
9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est ça qui est bien avec Maître Serran, c'est que voilà, c'est un peu comme les Twix.
Bah c'est, exactement.
Tiens, Farida voudrait vous parler, Maître Serran.
Avant que Farida prenne la parole, vous savez que les Twix, on les appelait avant les Raiders.
Les Raiders, c'est voilà, vrai. Hein, mais c'était il y a très longtemps.
Il n'y a que vous et moi
ça qui... Ça vous date.
Ouais, c'est vrai.
C'est à l'époque où il y avait des Nuts.
Ouais, à l'époque où il y avait des Nuts. J'en ai retrouvé d'ailleurs.
Des Nuts?
Ouais.
Ah ouais?
Bah je vous en ramènerai si vous voulez.
Avec plaisir.
D'accord.
Ramenez-moi un Nuts. Tiens, Farida voudrait vous parler, Maître
Serran. Pas de Nuts et pas de Raiders, mais on vous écoute.
Farida.
Allô. Oui, bonjour.
Bonjour Farida.
Bonjour Philippe.
Bonjour Farida.
Maître Serran, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai appelé.
Ah. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai appelé.
Votre portable pour vous parler de ma nationalité.
Ouais. Non, alors comme ça, ce serait mentir que de dire que je me souviens de cet appel, mais rappelez-moi tout ça.
Oui. Je vous avais dit que ça faisait 14 mois ou plus et j'avais pas été convoqué.
Convoqué par qui?
Par la. C'est une petite ruelle.
Une petite ruelle?
Oui, je sais plus comment ça s'appelle le nom.
En tout cas, vous êtes convoqué pour.
Je suis au troisième étage.
Ah.
On parle de quelle procédure? On va juste essayer de cadrer le truc. Vous me parlez de quel type de procédure, madame?
Nationalité.
D'accord. Donc là, vous avez reçu une convocation?
Oui.
D'accord.
Et elle m'a dit qu'il manquait l'extrait de naissance de mon père.
Ouais.
Et je sais pas quoi. Un papier de la CAF et un papier des impôts.
Bon, on vous demande de compléter le dossier.
Voilà.
D'accord.
Alors, j'ai complété tout et on m'a donné l'adresse boulevard du Palais. J'ai envoyé avec un accusé de réception.
L'initiative est bonne.
Et c'était il y a combien de temps,
moment,
ça, Farida?
Je ne sais pas combien de temps ça va mettre.
C'était il y a combien de temps que vous avez envoyé votre dossier, Farida?
Le 5.
Le 5 quoi?
Le 5 de ce mois.
De ce mois? Oui, non.
Oui.
Donc c'est... En fait, vous m'appelez pour me dire, est-ce que entre le 5 et maintenant, est-ce que le temps est trop long? Non.
Oui, voilà.
Ouais, non. Alors... Ce que vous dites, Farida, est intéressant parce que faut vraiment faire attention, et on le dit souvent aux clients, c'est-à-dire que vous avez vu, et d'ailleurs c'est ce que vous disiez, Farida, entre le moment où vous déposez un dossier et le moment où ça se formalise avec un rendez-vous, ça prend X mois. Faites en sorte, évidemment, que le dossier soit complet.
À la remise.
Ouais, oui, au moment où on le dépose, puisque l'administration peut s'octroyer ce droit. Elle attend parfois plus d'un an pour dire, écoutez, il manque une ou deux pièces, et on est reparti encore sur des délais pas possibles. Je ne dis pas que vous allez attendre encore aussi longtemps que la première fois, mais vous perdez du temps pour rien. Donc faites vraiment attention quand vous préparez un dossier à ce que le dossier soit ultra complet, quitte à parfois même à présenter des documents qui sont pas forcément demandés, mais vous pouvez vous dire peut-être que ça va éclairer l'administration. Parce que là, Farida, vous perdez du temps et ce serait pas sérieux de vous dire, écoutez, ils sont obligés de vous convoquer dans tel délai,
là,
c'est faux.
On est dans quel ordre de délai, Maître Serran?
Mais là, on est à minima, quand ils reprennent un dossier comme ça, sur, entre 6 et 8 mois, quoi, minima. Donc c'est ça qui est embêtant. Donc il faut vraiment faire en sorte que le dossier soit hyper complet dès le début. Perdez pas de temps par rapport à ça.
Bon, Farida, ce que Maître Serran est en train de vous dire, c'est qu'il va falloir que vous soyez patiente.
Ah bah oui, ouais, là, il faut qu'elle soit patiente. Le raisonnement de l'administration, étant donné que c'est pas à cause de l'administration, mais c'est à cause de l'administré. Voilà, si le dossier avait été complet, on n'en serait pas là et c'est dommage.
Bien, merci Farida pour votre appel. Bonne fête mesdames, bonne fête à toutes. Maître Serran, on vous retrouve vendredi prochain.
Avec plaisir.
Et demain, je vous donne rendez-vous entre 9h et 10h avec Steve Abdelkarim.
Retrouvez à votre service tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.